Alors, imaginez posséder un truc qui serait l'équivalent antique d'un passeport diplomatique.
D'accord.
Et ce passeport, il est couplé à un mandat d'arrêt international, le tout validé par la plus haute autorité religieuse et politique de l'époque.
Ah oui, le combo ultime en fait.
C'est ça. Et c'est avec ce pouvoir absolu, cette certitude totalement inébranlable, qu'un homme marche vers la ville de Damas. Il a la loi de son côté, il a l'autorité. Et son but, bah, c'est tout simplement d'éradiquer une secte naissante.
Sauf que ça va pas du tout se passer comme prévu.
Exactement. Son voyage va se transformer en l'une des déconstructions psychologiques et sociales les plus fascinantes de l'Antiquité. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse en profondeur.
Je suis ravie d'être là pour aborder ça.
Aujourd'hui, on plonge dans un ensemble de sources historiques vraiment captivantes, à savoir la 12e conférence du docteur Craig Kinner sur le chapitre 9 du livre des Actes.
Ce qui est génial avec ce matériel, c'est qu'il ne s'attarde pas sur des mouvements de troupes ou des changements d'empire qu'on voit dans les manuels d'histoire.
Ouais, c'est beaucoup plus intime.
Voilà. On y dissèque la mécanique du changement historique, mais à travers la transformation radicale d'individus. On y voit comment des structures de pouvoir énormes sont neutralisées et comment des frontières sociales qu'on pensait gravées dans le marbre ont été, pour ainsi dire, pulvérisées.
Et donc, notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre le comment et le pourquoi de ces bouleversements. On va analyser la chute vertigineuse de ce persécuteur implacable nommé Saul.
Tout à fait.
Mais on ne s'arrêtera pas là, parce que cette exploration va vraiment aider notre audience à voir les parallèles entre les dynamiques de pouvoir de l'Antiquité et la façon dont nos propres sociétés fonctionnent aujourd'hui.
Parce que, au fond, les luttes d'influence n'ont pas vraiment changé. Seuls les décors ont évolué.
C'est clair. Alors, pour bien comprendre ces dynamiques, il faut d'abord poser le cadre. L'histoire commence avec Saul, un intellectuel vraiment brillant, qui a été éduqué par le célèbre Gamaliel.
L'élite de l'époque, quoi.
Voilà. Et il lance une persécution féroce contre les premiers chrétiens. Mais il fait pas ça au hasard. Il va voir le grand prêtre à Jérusalem, fort probablement Caïphe, pour obtenir des lettres de recommandation.
Et là, faut vraiment qu'on s'arrête un instant. Parce que, dans notre tête aujourd'hui, une lettre de recommandation, bon, c'est un papier qu'on glisse dans un dossier pour trouver un stage ou une fac.
C'est ça, un truc un peu formel.
Sauf que, dans l'Empire romain, c'est une toute autre dimension. C'est vraiment le jour et la nuit. Dans le monde antique, la lettre de recommandation, c'est l'instrument central du pouvoir et de la diplomatie.
Carrément le moteur de la société, non?
Absolument. Toute la société repose sur un système de clientélisme, de réciprocité sociale et de dette. En gros, c'est « je t'ai rendu un service majeur il y a 10 ans, aujourd'hui tu dois faciliter le passage de mon protégé.
Ah ouais, le fameux réseau invisible.
» C'est ça. Cicéron, par exemple, était un maître absolu de ce jeu. Son livre « 13 des correspondances » n'est composé que de ça. Il savait exactement comment tourner ses phrases pour activer ses dettes d'honneur.
Du coup, obtenir ces lettres du grand prêtre, dont l'influence allait bien au-delà de la Palestine, ça donnait à Saul un pouvoir coercitif énorme.
C'était l'assurance que les dirigeants des synagogues de la diaspora allaient coopérer sans même poser de questions.
En gros, c'est l'équivalent antique d'une validation VIP sur un réseau social ultra select, couplé à une immunité juridique totale. Ça lui donnait un accès illimité. Et sa cible, ben, ce sont les membres de ce mouvement qu'on appelle à l'époque la voix.
Oui, la voix. Un terme hyper intéressant d'ailleurs, très ancré dans la théologie de l'époque.
C'était pas utilisé par d'autres groupes aussi?
Si, complètement. C'était prisé par les Esséniens, par exemple, pour désigner le chemin de la pureté divine. Ou par Jean-Baptiste, qui disait « préparer la voie du Seigneur
Attends, juste pour ceux qui nous écoutent et qui seraient moins familiers avec ça. Les Esséniens, c'était bien cette secte juive super stricte, isolée dans le désert du côté de Qumran, ceux des manuscrits de la Mer Morte.
C'est ça, exactement. C'était un groupe qui pensait être le seul vrai peuple élu, totalement coupé de la corruption de Jérusalem. Le fait que les premiers disciples de Jésus reprennent ce terme de voie, ça montre qu'ils se voyaient comme l'accomplissement de ce véritable chemin.
Et c'est justement ce qui mettait Saul dans une rage folle.
Ouais, il supportait pas ça.
Donc, il se met en route vers Damas. Il faut s'imaginer le voyage, hein? 220 km vers le nord, genre 6 jours de marche éreintante. Et Damas, c'est pas un petit village de campagne.
Loin de là. C'est un carrefour commercial majeur. L'historien Joseph parle de plus de 20 000 juifs qui y vivaient. Pour Saul, c'est vraiment le terrain de chasse idéal.
Donc on a ce gars, lancé à pleine vitesse, avec l'arrogance de celui qui a tout le système derrière lui. Il a le réseau, il a la force, il a la certitude d'avoir raison, et là, bam!
L'interruption totale.
Comment on stoppe un homme pareil? Par cet événement incroyable sur la route, il est frappé par une lumière éblouissante. Et on ne parle pas d'un simple reflet du soleil dans les yeux.
Non, le texte décrit vraiment une lumière venant du ciel. Et dans l'imaginaire de l'époque, ça, c'est la Shekhinah.
La Shekhinah, d'accord.
Oui, c'est la manifestation visible de la gloire et de la présence de Dieu. Ça rappelle tout de suite les grandes théophanies de l'Ancien Testament, genre le buisson ardent ou le mont Sinaï.
Et au milieu de cette lumière, il y a cette voix qui l'interpelle en doublant son nom. Saul, Saul. C'est pas juste pour être sûr qu'il écoute, on est d'accord.
Pas du tout. Littéralement, quand une voix divine double un nom, c'est pour annoncer un truc sismique. On le voit avec Abraham, Abraham, ou Moïse, Moïse.
Donc quand il entend ça, Saul doit se dire « Bingo, j'ai la validation suprême ».
Exactement. Il devait s'attendre à recevoir une consécration pour son super boulot de nettoyage, mais la voix lui dit « Pourquoi me persécutes-tu ? »
Aïe, la dissonance cognitive totale.
C'est le mot. Il réalise qu'en traquant ces gens, c'est à Dieu lui-même qu'il s'attaque. Le choc est monumental.
Et la conséquence physique de ce choc, c'est qu'il devient aveugle. Il doit être guidé par la main jusqu'à Damas. Et là, les sources disent qu'il jeûne pendant 3 jours, sans manger, mais surtout sans boire.
C'est qui est extrême.
Bah oui, hein. 3 jours sans eau, biologiquement, c'est hyper dangereux pour les reins. C'est pas un petit jeûne de piété. Alors je me demande, est-ce que c'est une punition qu'il s'inflige ou bien c'est nécessaire pour provoquer, disons, un redémarrage complet de son système de croyance?
C'est une excellente question en fait. Dans le judaïsme du 1er siècle, ce type de jeûne, c'est le symbole d'un deuil absolu. Mais d'un point de vue psychologique, c'est exactement ce que tu dis, un redémarrage.
Un genre de reboot mental.
Voilà. Ses yeux sont fermés, il a une privation sensorielle quasi totale, c'est une mort de l'ego. Il pensait appliquer la loi divine et il se rend compte que tout son système de valeurs était à l'envers. Pour se déprogrammer de ça, il faut une rupture radicale avec l'extérieur.
D'accord, mais bon, faire sa déconstruction tout seul dans le noir, c'est bien, sauf qu'à un moment, il faut bien retourner dans le monde réel. Et là, il y a un problème pragmatique énorme.
L'intégration ?
Ben oui. Comment intégrer cet ancien tortionnaire au groupe qu'il venait détruire ? Personne ne va vouloir de lui. Et c'est là qu'intervient Ananias.
Oui. Et le docteur Kenner souligne un truc fascinant ici, le phénomène des visions appariées. Dieu donne une vision à Saul et une vision coordonnée à Ananias de l'autre côté.
C'était courant ce genre de double vision ?
Extrêmement rare dans la littérature antique. Ça servait de preuve irréfutable que c'était bien une intervention divine objective. Ça élimine complètement la théorie de l'hallucination due au jeûne ou au stress.
Donc, Ananias reçoit l'ordre d'aller dans la rue droite, dans la maison d'un certain Judas, pour imposer les mains à Saul de Tarse. Et là, franchement, j'imagine la surfroide d'Ananias.
Tu m'étonnes.
C'est un peu comme si, aujourd'hui, on demandait à un membre d'un réseau clandestin d'aller soigner en personne le chef de la police secrète qui a juré tous les tuer. C'est vertigineux.
L'analogie est parfaite. Surtout quand on pense que Saul vient de Tarse. Et Tarse, c'était pas une petite bourgade de campagne.
C'était une grande ville.
Une vraie métropole intellectuelle. La capitale de la Cilicie, avec des écoles de philosophie qui rivalisaient avec Athènes. Saul, c'est l'élite. Donc la terreur d'Ananias est hyper légitime.
Et pourtant, il y va. Il obéit, il entre. Et le premier mot qu'il lui dit, c'est « frère ».
C'est puissant, hein ?
Frère Saul, c'est pas juste un mot, c'est vraiment l'effondrement d'un mur d'hostilité. C'est un acte de grâce d'une radicalité folle envers le gars venu les mettre en prison.
Exactement. Et c'est à ce moment-là que Saul recouvre la vue. Il est baptisé dans la foulée, probablement dans le fleuve Barada, juste à côté.
Mais c'est là que l'histoire devient, pour le coup, délicieusement ironique. Dès l'instant où Saul est accepté par ses victimes, paf, il devient la cible de ses anciens potes.
Ah bah oui, l'envoyé diplomatique devient un fugitif du jour au lendemain. Parce que Saul y fait pas les choses à moitié. Il se met direct à prêcher dans les synagogues, avec une éloquence redoutable.
Il maîtrisait bien les textes ?
Oh oui, il utilisait surtout la traduction grecque des Septante qu'il connaissait par cœur.
Juste pour clarifier pour notre audience, la Septante, c'est bien cette fameuse version de la Bible hébraïque traduite en grec, qui l'a rendue accessible à tout le monde gréco-romain ?
C'est ça, très utilisée par la diaspora. Ça le rendait imbattable dans les débats. Du coup, ça provoque une double opposition, à la fois locale et politique.
Politique.
Oui, les sources montrent qu'il y a eu une coalition avec l'ethnarque nabatéen.
Attends, un ethnarque, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans ?
Un ethnarque, c'est un gouverneur qui gère un groupe ethnique. Là, il représentait le roi de Nabatée. Et le fait que les chefs religieux aient réussi à impliquer cette autorité civile, ça prouve à quel point Saul était vu comme une menace publique énorme. Ils ont carrément verrouillé les portes de la ville avec des gardes.
Et ça nous amène à la scène la plus absurde de l'histoire. Le gars qui est arrivé par la grande porte avec ses lettres officielles, il finit par devoir s'échapper en pleine nuit caché dans un panier à provisions qu'on descend le long de la muraille.
C'est l'humiliation suprême. Mais c'est aussi riche en symbolisme biblique. S'échapper par une fenêtre dans la muraille, ça rappelle les espions sauvés par Rahab ou le roi David qui fuit les assassins.
Ouais, il rejoint le club des fugitifs illustres.
Voilà.
Mais même après ça, galère sur galère. À Jérusalem, tout le monde est terrifié par lui. Il faut que Barnabas se porte garant. Et au final, face aux menaces, il le renvoie chez lui, à Tarse.
Où il va rester de longues années dans l'ombre.
C'est ça que je trouve fou. L'idée que même après un appel divin aussi spectaculaire, ben, l'appel, ça veut pas dire action immédiate. Parfois, faut attendre des années.
La transformation psychologique, ça peut être instantanée, mais l'intégration sociologique, ça prend du temps. Faut se préparer.
Tout à fait. Et pendant que Saul est mis sur la touche à Tarse, le projecteur se déplace sur un autre personnage majeur, Pierre. Et lui, il va s'attaquer aux frontières, pas théologiques pour l'instant, mais géographiques et sociales.
Oui, on suit Pierre à Lydda, où il guérit Aîné, ce qui convertit toute la région. Et soudain, urgence absolue à Joppé.
L'actuel Tel Aviv, c'est ça?
Exactement. Une femme nommée Tabitha, ou Dorcas en grec, vient de mourir. Et c'est pas juste une gentille dame de la paroisse que nous quitte.
Ah non?
Les sources montrent qu'elle avait un statut super important. Non?
Crucial même. Kiener explique qu'elle était une bienfaitrice, une mécène. Dans le monde antique, le système de patronage maintient tout à flot, et environ un dixième des mécènes étaient des femmes. Ah, c'est quand même pas négligeable.
Pas du tout. Tabitha finançait et fabriquait des vêtements pour les veuves. Il faut bien comprendre, à l'époque, il n'y a pas de sécurité sociale. Une veuve sans famille, elle est condamnée à la mendicité, voire à la mort.
Donc la mort de Tabitha, c'est pas qu'un drame émotionnel. C'est l'effondrement de toute l'économie locale pour les plus vulnérables.
C'est une vraie crise de survie pour la communauté.
Alors, Pierre arrive, il monte dans la chambre haute. Et là, face à toutes ces veuves en pleurs, il prend une décision hyper dure. Il vire tout le monde de la pièce.
C'est radical. Mais Kelleher fait le lien avec des récits anciens, comme Élisée ou Jésus, et même avec une anecdote moderne hyper intéressante au Congo.
Ah oui, avec Mama Jean, c'est ça. J'ai vu ça dans les notes.
Exactement. Face à une jeune fille décédée de la malaria, elle a exigé que tous les curieux sortent avant de s'isoler pour prier et la ramener à la vie. Ça illustre vraiment une mécanique universelle.
Le besoin de s'isoler du chaos ambiant.
Oui, le rejet du désespoir collectif. Le deuil bruyant crée une pression écrasante.
C'est marrant, ça me fait penser à comme un chirurgien de pointe qui exige un bloc opératoire totalement stérile. Sauf que là, la contamination qu'il veut éviter, elle n'est pas physique.
Elle est émotionnelle. Il devait faire abstraction du chagrin dévastateur de ces femmes pour se concentrer uniquement sur l'impossible.
Et ça marche. Le miracle a lieu. Mais ce qui est dingue, c'est que ce miracle l'amène à prendre une décision logistique qui a l'air banale, mais qui est une vraie bombe à retardement culturel.
Ah oui, le choix de son Airbnb de l'époque.
C'est ça. Il décide d'aller loger chez un certain Simon le Tanneur. Et alors là, niveau choc culturel, on est au sommet.
C'est énorme. Le métier de tanneur, c'est l'un des plus marginaux. Il manipulait des cadavres d'animaux. L'odeur était tellement atroce qu'il devait vivre en dehors des villes.
Attends, c'est pas là que les rabbins disaient qu'une femme pouvait demander le divorce juste pour ça?
Si, si, sans condition. C'était l'impureté incarnée. Et Pierre, un leader hyper respectueux des règles de pureté, décide sciemment de s'installer là. Il déconstruit ses propres préjugés.
Ce qui prépare le terrain pour un choc encore plus grand juste après, à Césarée Maritime.
La ville symbole de la domination romaine, construite par Hérode.
Et là-bas, on trouve Corneille, un centurion. On passe du tanneur marginal à la machine de guerre impériale.
Et pour bien comprendre, faut voir ce qu'était l'armée romaine. 20 ans de service minimum, un serment d'allégeance absolue à l'empereur, souvent vu comme divin. L'empereur Auguste était salué comme le sauveur, apportant la Pax Romana.
La fameuse paix romaine. Mais bon, une paix imposée par la violence et l'écrasement des peuples, on est bien d'accord.
Oui, c'est la paix par la terreur. Et là, l'auteur, Luc, fait un contraste magnifique. Il oppose cette machine militaire à Jésus, le vrai prince de la paix, qui prêche l'humilité.
Et Pierre finit par entrer chez ce Romain. Franchement, si on connecte ça pour notre audience, c'est impensable.
totalement transgressif.
C'est comme si aujourd'hui, un grand chef religieux passait ses nuits dans un abattoir clandestin et allait dîner le lendemain avec le général d'une armée d'occupation. Les lecteurs de l'époque devaient être complètement stupéfaits.
Mais c'est tout l'enjeu du récit. Ça montre que la violence impériale vient s'échouer face à une mécanique de grâce. Les préjugés sont affrontés de front.
Eh ben, quelle trajectoire vertigineuse on vient d'explorer. On est parti des couloirs du pouvoir avec Saul, armé de ses lettres, pour le voir fuir humilié dans un panier en osier. On a vu la puissance discrète du mécénat féminin avec Tabitha.
Et l'évolution spectaculaire de Pierre, franchissant les barrières de la pureté chez un tanneur avant d'abattre celle de la xénophobie chez un centurion romain.
C'est vraiment la grande leçon ici. L'histoire, avec un grand H, ne bascule pas seulement lors de grandes batailles.
Non, elle bascule quand des individus acceptent de s'exposer à des perspectives radicales, de perdre leur certitude ou de franchir des barrières sociales ininfranchissables.
C'est fascinant, et c'est là-dessus qu'on va clore notre réflexion. Au début, on parlait de ces lettres de recommandation antiques qui dictaient la hiérarchie sociale et justifiaient les exclusions.
Oui, le fameux réseau.
Aujourd'hui, on n'a plus ça sous cette forme. Mais quelles sont nos propres lettres de recommandation invisibles? Vous savez, nos algorithmes, nos chambres d'écho sur les réseaux sociaux, nos biais de confirmation, ces trucs qui nous dictent qui mérite d'être écouté et qui doit être rejeté.
C'est une vraie question à se poser.
Et surtout, on peut se demander qui autour de nous attend secrètement son propre chemin de Damas pour enfin s'en libérer. Voilà de quoi nourrir les réflexions de tous ceux qui nous écoutent.
Merci d'avoir suivi cette plongée avec nous.
À très vite pour une nouvelle exploration au cœur des sources.